Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Que nous fassions notre lecture dans le livre des psaumes. Livre des psaumes. Et là, nous avons un des plus fameux, un des plus connus. C'est le psaume 51 qui est un petit peu le pendant, ou enfin, en tous les cas, une anticipation de cette fameuse parabole que Jésus nous laisse dans l'évangile de Luc au chapitre 15, c'est-à-dire la parabole du fils prodigue. Alors, ça ne concerne pas finalement, eh bien, le même type d'individu, mais les choses sont semblables dans les faits, mais il s'agit de David. Alors il a écrit un poème, après avoir fait une expérience tout à fait particulière, qui est hélas l'expérience d'une multitude d'hommes, c'est-à-dire chuter moralement, avec quand même des conséquences graves. Mais il a su finalement, David, s'approcher de Dieu malgré tout ce qu'il avait pu commettre de désobéissance. Et il explique qu'il a trouvé le pardon et que ses fautes ont été oubliées. Alors, c'est le psaume 51. Voilà, le psaume 51, si vous voulez ouvrir votre Bible à cette page-là. Donc, je vais lire. Hein. Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette point loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais fait. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras les sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Voilà pour ce qu'exprime David. Et nous pouvons dire que ce qu'il a écrit, c'est un poème. Ce qu'il a écrit, c'est une réalité de sa vie. D'ailleurs, je crois que les psaumes de David, c'est tout à fait ça. Dans la joie, dans la tristesse, dans les persécutions, dans toutes les épreuves et les tribulations, eh bien, il a écrit ces psaumes pour nous montrer que, bien, en effet, les choses vécues eh bien, étaient certainement intenses, mais il a trouvé le secours de Dieu dans toutes ses misères et dans toutes ses peines. Vous pourrez peut-être titrer ce commentaire, ce que nous allons entrevoir ce soir, « Faute pardonnée, faute oubliée ». Et c'est ce que nous dit d'ailleurs justement eh bien, ce que nous avons lu. D'abord, il s'agit de David. David que nous connaissons, qui est le chef, enfin le roi d'Israël, et qui a été nommé, et la Bible le nomme, l'homme selon le cœur de Dieu. Alors c'est vrai qu'il se caractérisait par une intégrité, par une grande foi, par ses prières, par tout ce qui faisait eh bien, qu'il était David, non pas parce qu'il était roi, mais parce qu'il avait reçu des dons de la part de Dieu. Et c'est vrai que là, nous avons découvert un tableau assez sombre de sa vie. Au moment où David était probablement eh bien, au sommet de sa royauté, et il va commettre une faute. Il va commettre trois fautes. Une faute qui va entraîner deux autres. Et nous avons donc les protagonistes de l'histoire tout de suite au début de notre poème. Et il y a d'abord Nathan le prophète, qui sous l'ordre de Dieu va aller voir David en lui disant « C'est toi qui as péché. C'est toi qui as commis ces fautes. » Parce que, on va le voir, on va le découvrir, David avait couvert un petit peu tout ça parce qu'il était roi, il usait un peu de son pouvoir. Alors que tout le monde savait que finalement, eh bien, il avait véritablement eh bien, défailli grandement dans ces circonstances dont nous allons parler. Et le prophète est venu lui dire « Mais écoute, hein, tu ne peux plus rien cacher. Tout le monde le sait. » Et en premier, Dieu sait ce que tu as fait. Alors à ce moment-là, David a eu vraiment une attitude extraordinaire, courageuse, pleine d'audace. C'est qu'il a dit, oui, effectivement, j'ai péché, et maintenant je me repens de ce que j'ai fait. Il avait attendu des mois et des mois hein, avant de faire ça. Mais là, il était prêt parce qu'il ne pouvait plus supporter le poids de la culpabilité avec la faute, hein, les fautes qu'il avait faites. Et puis il y a Bathsheba, qui était pour rien, hein, parce que c'était une femme mariée très belle, il nous est dit, remarquablement belle. Et alors qu'elle était seule dans sa maison, sur la terrasse de la maison, le roi qui était dans une période où il n'était certainement pas à sa place, sur le soir avait regardé cette belle femme, l'avait convoitée, l'avait fait venir, et tout simplement avait couché avec elle. Et nous voyons que, plus encore, il avait gardé cela, je vous l'ai dit tout à l'heure, il avait dissimulé tout cela. Cette femme est devenue enceinte, enfin, elle est tombée enceinte, et elle était mariée, je vous l'ai dit. Son mari était un héros dans l'armée de David, il s'appelait Uri, et pour se débarrasser finalement eh bien, de la situation, David, qui était pourtant un homme d'honnêteté et de droiture de cœur, avait conçu le plan d'envoyer Nathan, qui était sur un poste de combat, le plus près possible de l'ennemi, pour qu'il se fasse tuer. C'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu dans un premier temps un adultère, deuxièmement de la dissimulation et troisièmement un meurtre. Voilà la faute. Voilà la faute de David. Ça s'est terminé par un assassinat. Alors, comment peut-on en arriver là? Un homme comme David, un héros, un homme de foi, un homme qui aimait Dieu, par-dessus tout on peut dire. Comment en est-il arrivé là? Comment est-il tombé dans cet égarement pour faire tout ça à la suite? Parce que ça s'est passé pratiquement dans le même temps. Il y a quelque chose qui est stigmatisé dans la vie de David à ce moment-là, alors qu'il aurait dû être avec son armée, là, dans un pays limitrophe, où tous ses soldats, ses généraux, et Uri en particulier, étaient en guerre et au combat. Lui, il était resté dans la capitale, à Jérusalem, et il était oisif, il ne savait pas quoi faire. Et la chose qu'il a pu faire, c'est de monter sur le toit, de voir cette femme et de la prendre, parce que c'était comme, finalement, eh bien, un kidnapping. Elle n'avait rien demandé, la pauvre. Naturellement. Hein? Et le roi, eh bien, elle est obligée de se soumettre aux volontés du roi. Mais David, comment se fait-il qu'il est tombé dans un tel piège? Et puis, il y a aussi une chose qui caractérisait David, c'est qu'il avait des appétits incontrôlés, voilà, hein, dans son oisiveté, alors qu'il aurait dû être ailleurs, eh bien, voilà, il est tombé dans le piège qui lui était tendu, tout simplement. Enfin, qu'il a lui-même, finalement, eh bien, amorcé, nous pourrions dire. Alors, c'est un poème pour une faute pardonnée. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que quand on lit l'histoire du psaume 51, eh bien, c'est véritablement l'histoire de tous les hommes. Je ne veux pas dire de la même manière, mais on peut dire, comme l'Épître aux Romains le dit, c'est que tous les hommes ont péché d'une manière ou d'une autre. Et qu'est-ce que nous faisons finalement dans une situation où nous sommes prisonniers de notre faute, où nous sommes enfermés dans la culpabilité? Comment en sortir? Et toute l'histoire est là. Alors l'histoire, il va l'écrire, il va le raconter dans ce psaume. Eh bien, après avoir vécu tout ça. Alors, naturellement, eh bien, quand Nathan, le prophète, lui a dit « Mais tu es cet homme-là, David, C'est pas la peine de continuer à jouer le double jeu, à jouer à cache-cache, c'est plus possible. Alors il va y avoir un réveil. Un réveil amer et un réveil douloureux, mais un réveil qui va être salutaire. C'est pour ça que nous avons eh bien, cette histoire ce soir à commenter. Il y a une première étape qui nous est donnée dans ce passage que nous avons lu il y a un instant. C'est quand la passion qui nous a aveuglés, qui nous a entraînés à faire le mal, tombe d'un seul coup. Et je dis que quand la passion tombe, ça c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui le permet, parce que on devient fou à ce moment-là. C'est la folie. Ça devient quelque chose qui est entêtant, et c'est ce que nous allons relire à travers le verset 3. Il dit ceci, et là il va prier. Il va prendre conscience que ses yeux vont s'ouvrir sur le mal qu'il a pu faire, sur le crime qu'il a commis, sur le vol d'une femme à son mari, et à travers eh bien, une tortuosité de cœur dans lequel eh bien, il a du mal à se dépêtrer. Alors il dira, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, il ajoute, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » On sent que David, quand il écrit cela, son cœur est accablé. Il ne peut plus contenir, finalement, eh bien là, le mal qui est en lui, la culpabilité qui est en lui. Et il apprendra et il nous le dira que le repos de nos pensées, le repos du cœur, le repos de la conscience ne vient que s'il y a une sincère confession et une prise de responsabilité personnelle. Ce n'est pas tant Nathan, ce n'est pas tant les autres que nous-mêmes, que David lui-même. À un moment donné, il a dû se prendre la tête en disant « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Parce qu'à ce moment-là, ses yeux, son cœur, eh bien, a réalisé le mal, l'envergure du mal. Et il ne parlera pas d'une manière généraliste, mais il dira, et vous l'avez lu, on l'a lu ensemble, il parlera de mon iniquité. Pardonne mon iniquité, elle est à moi. Pardonne mes transgressions, pardonne mon péché, ô Dieu. Vous remarquerez que dans ce réveil vigoureux, dans ce réveil qu'il est en train d'expérimenter, il ne fuit pas. Vous savez, il y a tant de gens qui sont pris avec toutes sortes de défauts, on pourrait dire. Mais quand ils sentent que les choses se rapprochent, qu'elles vont être dévoilées, alors ils fuient, ils trouvent des excuses, et ils essaient d'échapper finalement eh bien là, à quelque chose. Il n'y a ni fuite, il n'y a pas de prétexte, de circonstance ou d'ignorance. Quelquefois les gens disent « mais je ne savais pas ». Ce n'était pas le cas de David, il savait très bien quelle était la loi, finalement, de Dieu dans la matière. Il ne pouvait pas invoquer les circonstances en disant « Mais tu sais, j'étais tout seul, mon armée était à la guerre, je me suis retrouvé tout seul dans mon pareil, je ne savais pas quoi faire. » Non. Ni excuse, ni prétexte de circonstances ou d'ignorance. Et il n'accuse pas quelqu'un d'autre. Il ne va pas dire « Mais c'est Bathsheba qui m'a séduit. » Il a été séduit par Bathsheba parce qu'elle était belle, tout simplement. Et ce n'est pas elle, c'est lui qui a vu cette femme, et bon, il a prolongé ses regards sur elle, et on connaît naturellement eh bien, la suite. Et c'est bien lui et lui seul, parce que ça transparaît à travers ce qu'il écrit, qui a commis la faute. Vous savez, il y a quelque chose qui va caractériser David et qui va lui permettre de remonter la pente, de trouver le pardon de Dieu, d'être réhabilité, c'est que le maître mot dans tout ça, c'est le mot sincérité. Ouais. D'ailleurs, on le lira tout à l'heure, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé, sincère. Inscris la vérité au fond de mon cœur, on le retrouvera. Alors, c'est le maître mot, avec un immense désir d'être absous. On a tous fait l'expérience de la culpabilité, à un moment ou à un autre de notre vie. Il y a des fausses culpabilités. Là, c'était une vraie culpabilité. C'était l'Esprit de Dieu qui était en train de travailler David pour qu'il ne se perde pas, et que Dieu voulait le récupérer. Et à un moment donné, eh bien, tout craque à ce moment-là. Tout devient difficile. D'ailleurs, il l'expliquera bien dans ce fameux psaume 32, quand il dira, « Mais ma vie était comme la sécheresse de l'été. Je ne trouvais plus aucune vigueur. Mon corps était consumé par, finalement, un feu intérieur. » Et je crois que quand la culpabilité est à ce niveau, c'est bon signe. Parce que les gens qui ne ressentent plus la culpabilité du mal, c'est grave. C'est que finalement leur cœur est cautérisé, leur conscience ne répond plus. Ça ne fonctionne plus. Ça buguait quelque part, comme on dit en termes informatiques, mais Et quelque part, Dieu le permet que nous soyons malades. Malades des fautes, malades de notre péché, malades de nos erreurs, malades de tout ce qui ne va pas naturellement. Alors le premier pas qu'il va faire, c'est tout simplement avouer, dire et confesser à Dieu. On n'a pas besoin d'aller voir un homme, à moins que nous y soyons conduits. Mais le premier averti, enfin, ce n'est pas le mot que je cherche, mais le premier qui est informé, c'est Dieu parce qu'il connaît tout. Et nous voyons que la première chose à faire, c'est qu'il ne va pas aller voir traîner de droite et de gauche, prendre le sac et la sangle public, parce que pourtant c'était un péché quand même publiquement qu'il a caché, mais toujours est-il qu'il s'est adressé à Dieu. Ça c'est la première étape, c'est avouer. Et c'est vrai que dans le livre des Proverbes, il nous est dit que celui qui cache sa faute ne prospère pas. Il est là dans un contexte où il est prisonnier lui-même, il est prisonnier tout simplement de sa faute. La deuxième étape, c'est d'être convaincu d'avoir désobéi à Dieu. Certes, David, en faisant ce qu'il a fait, a péché et a entraîné une femme à pécher, même si ce n'était pas sa volonté. Il a tué un homme, il a péché contre Bathsheba, il a péché contre également Uri, il a péché contre son peuple, mais avant tout, qu'est-ce que c'est que la repentance ? C'est de demander pardon à Dieu, c'est de confesser nos péchés à Dieu, mais dans le premier temps, c'est d'être convaincu que nous sommes dans un état de répréhension vis-à-vis de Dieu, désobéi à Dieu pour ce que l'on sait être mal. Vous savez, Dieu a mis une boussole à l'intérieur de nous-mêmes qu'on appelle la conscience. Une boussole, elle indique le nord, et elle ne se trompe pas. Le champ magnétique. Mais une chose qui est certaine, c'est que Dieu nous a fait avec une conscience. C'est ce qui nous distingue des animaux, hein, vous comprenez ? Alors bien d'autres choses, naturellement. Mais entre autres, l'animal fonctionne avec ses instincts. Il ne va pas se culpabiliser parce qu'un lion va manger une gazelle. Parce qu'à ce moment-là, il ne mange plus. Hein. Mais l'homme, lui, il sait grandement ou petitement, en fonction des lumières qui sont les siennes, finalement ce qui est bien et le mal. Et même quand il ne sait pas grand-chose, il sait très bien ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, nous voyons que c'est la suite qui nous est donnée à travers les versets 5 et 6, et nous allons les reprendre. Et il dira, mais je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Donc c'était quand même une obsession, cette culpabilité obsessionnelle. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Écoutez bien les paroles de David, il dit, j'ai péché contre toi seul. Il met sa responsabilité d'avoir transgressé la volonté de Dieu, il met en premier eh bien, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu qu'il a, tout simplement, et eh bien sur laquelle il a failli. Et j'ai péché contre toi seul. Connaître, c'est-à-dire savoir ce qu'il faut faire et faire le contraire. En la matière, David savait très bien qu'il ne fallait pas faire ça, mais il l'a fait quand même. Emporté par ses appétits. Emporté par les stimuli, peut-être, du moment. Emporté par toutes sortes de choses. Il a perdu la tête, finalement, tout simplement. On l'a dit, et je le redis, c'est que David était prisonnier de sa passion. Il ne le savait pas. Il le vivait. Il en était profondément malheureux au bout d'un certain temps. Mais il ne savait pas comment sortir de la prison. Il y avait bien des portes et des barreaux de fer, mais il n'y avait pas la clé. Et pour trouver la clé, il n'y a qu'une seule solution. C'est véritablement venir devant Dieu. Ce n'est pas d'autres situations. Vous savez, l'apôtre Paul écrira, mais il l'écrira certainement pour des raisons qu'il connaissait en lui-même. Il dira, mais quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Oh ! Il l'écrira d'une manière extraordinaire, c'est dans l'Épître aux Romains au chapitre 7. Et quand je veux penser bien, je pense mal. C'est quelque chose qui domine ma personne. C'est quelque chose qui dépasse mon cœur, qui complètement eh bien, a neutralisé ma volonté. Ça, c'est la condition des hommes. Mais comment sortir ? Comment se frayer un chemin pour avoir la liberté ? Et Jésus le soulignera dans l'évangile de Jean aussi, au chapitre 8. Il dira d'une manière très claire, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Mais la vérité vous affranchira. La vérité que nous connaissons de la parole de Dieu, la vérité que Dieu met par son Saint-Esprit dans nos cœurs, est le seul moyen de nous affranchir. Il y a une troisième phase dans ce cheminement vers la libération, vers cet affranchissement, qui est la suivante. C'est demander, c'est crier et prier, c'est-à-dire la prière qui libère. Et nous voyons qu'il y a une intensité dans ce que David nous laisse. Il l'écrit, mais il l'a vécu. Il y a une intensité, il y a une profondeur, une ferveur dans sa prière, qui n'est plus seulement une prière, mais qui est une supplication, qui est un cri. Et vous l'avez remarqué, nous l'avons lu en début de ce psaume, il dira à Dieu, mais efface, lave-moi, purifie-moi, comme si le péché dans la vie d'un homme était une marque indélébile, quelque chose qu'il fallait enlever, comme quelque chose qui s'incruste en quelque chose, une incrustation dans notre personnalité, dans notre personne, au fond de notre cœur et au fond de notre âme, dans nos pensées, dans notre esprit. Et vous le remarquerez, David est prêt à accepter le verdict de Dieu, donc même la condamnation de Dieu. Il dira, mais au verset 6, « Mais tu seras juste dans ton jugement. Moi, je suis prêt à l'accepter. » Et quand on est prêt à accepter, quand on est prêt à capituler, quand on est prêt à abdiquer, parce que la vérité nous est présentée et que nous reconnaissons à ce moment-là que nous ne discutons pas, que nous ne sommes pas là en querelle et en toutes sortes de palabres avec le Seigneur, eh bien c'est à ce moment-là que Dieu va intervenir et qu'il va dire, eh bien voilà, à ce moment-là, eh bien, au lieu de te condamner, je ne vais pas te justifier, mais au lieu de te condamner, je t'absous, je te pardonne. Ah, quelle différence à ce moment-là. Quelle différence, parce que l'homme trouve sa libération. Ouais. Le verdict mérité. Et vous savez, Dieu est avant tout un Dieu de miséricorde avant d'être un Dieu de miséricorde et de grâce avant d'être un Dieu de jugement. Ça, c'est l'esprit de l'Évangile qui transparaît déjà dans l'Ancien Testament. Alors, David a confiance. Il a la foi, on pourrait dire, il a la foi en Dieu, pour être pardonné mieux, pour être délivré et mieux encore, pour être réhabilité. Vous avez compris l'étape qu'il y a dans tout cela? Il y a le pardon d'abord, il y a ensuite la délivrance du péché, et après il y a une réhabilitation. Qu'est-ce qui s'est passé avec le fils prodigue? Son père qui va l'accueillir, qui va faire la fête, qui va le revêtir d'habits, de chaussures, et il va lui mettre un anneau doux. C'est ça la réhabilitation. David, par la faute qu'il avait commise, était tombé bien bas. Il avait perdu finalement sa dignité, il avait perdu son honneur, il avait tout perdu quelque part. Et même aux yeux de Dieu, il n'y avait plus rien pour David. Même si ça avait été un homme, selon le cœur de Dieu, il avait tout gâché, tout mis par terre. La réhabilitation, c'est véritablement, eh bien, de rentrer en crédit devant Dieu et de dire, eh bien, maintenant, les péchés sont pardonnés, il ne subsiste rien devant Dieu. Et c'est là où on peut revivre, réellement revivre. Et tout cela en raison de la souffrance de sa faute. Et c'est sa conscience et c'est son cœur dont il a mesuré toute la souillure qu'il y avait à ce moment-là et la faiblesse de sa volonté. Comment peut-on mesurer, comment peut-on évaluer les choses qui sont pures et les choses qui sont impures? Quand on est parti dans les choses impures, on ne sait même plus si elles sont impures. Quand on est parti à pratiquer les choses qui sont mal, mauvaises, on ne sait même plus qu'elles sont mauvaises. Parce que finalement, eh bien, notre conscience a perdu son fonctionnement normal. C'est pour ça que dans nos sociétés, aujourd'hui, on appelle bien mal et mal bien, et tout est inversé, on ne sait plus tellement où on en est rendu. Et on va justifier finalement le mal, et on va critiquer le bien comme étant quelque chose d'anormal. Tout est inversé, tout est à l'envers. Et ça, c'est grave. Parce que l'homme n'est plus capable à ce moment-là d'évaluer la gravité des choses. Il ne sait plus. Alors il le dit. « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Remarquez au passage qu'il dira, mais je suis né, j'ai été conçu, non pas que sa mère était une plus grande pécheresse que les autres, mais ça c'est la condition humaine. Vous savez, un enfant, hein, même à 3-4 ans et plus et moins, je ne sais pas, mais on n'a pas besoin de lui apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Hein. Il sait déjà, hein, intuitivement déjà dans son cœur. D'ailleurs les parents sont là pour donner la petite réforme nécessaire. Mais toujours est-il que c'est inné. C'est ce que l'on a, c'est pas très théologique, mais c'est ce qu'on a appelé le péché originel, tout simplement, parce qu'il est à l'intérieur de nous-mêmes, on n'a pas besoin de l'apprendre, ça s'apprend tout seul. donc l'état originel. Qu'est-ce que la conscience de l'homme dans sa condition naturelle? Le mal secret, eh bien, a son siège au fond des cœurs, et comment à ce moment-là en sortir et reprendre la bonne route, si on peut s'exprimer ainsi, et revenir et se détourner du mal? Jésus a raison, et je le répète, quand il dit « Mais celui qui se livre au péché devient l'esclave », vous vous rendez compte? Pas seulement le serviteur, mais l'esclave. Celui qui est là, voué corps et âme, totalement et complètement, à se plier au diktat du mal et de la faute. Et pourtant, David le sait, il le dit, « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Et fait pénétrer la sagesse au-dedans de moi. C'est comme si David, on peut se l'imaginer comme ça, dans sa supplication, dans sa prière et dans ses cris pour en sortir, parce qu'il est profondément malheureux, pouvait dire, mais Seigneur, je veux que tu, en force, oui, même en force, que tu me prennes et que tu me pilonnes pour faire rentrer la vérité dans mon cœur, et que tu me donnes, eh bien, la sagesse que je n'ai pas. Vous savez, c'est Jacques qui a cette belle parole, enfin cette belle écriture, quand nous lisons ça, dans son épître, Jacques dans le Nouveau Testament, qui dira, mais si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, elle lui sera donnée simplement et sans reproche. Mais il faut la demander. Et là, il a vu que, David a vu qu'il a eu un acte de folie, il a perdu la tête. Il est tombé fou avec cette histoire. Et il dit, mais Seigneur, prends-moi, hein, fais quelque chose, mais je veux que tu fasses rentrer, pénétrer la sagesse. Et bien, donne-moi. Et là, il exprime un désir profond d'honnêteté, même si ça doit faire souffrir. Et il sait qu'il y a une souffrance. Il y aura une souffrance. D'honnêteté avec soi-même. Parce que quand on est honnête avec soi-même, on va être honnête avec les autres. C'est toujours la même réciprocité. Quand on est honnête avec soi, on est honnête aussi avec le Seigneur. C'est normal. Être vrai. Et il ne veut plus se livrer à la comédie qu'il a jouée pendant des mois et des mois, David. Ni complaisance. D'ailleurs, il exprime. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. On le connaît, ce texte. Plus blanc que la neige. Naturellement. L'hysope, dans les cérémonies sacrificielles des Hébreux en Israël, c'était une branche d'un petit végétal que l'on trempait dans le sang. Que l'on trempait dans le sang des animaux sacrifiés et on les aspergeait comme ça, vous comprenez ? C'était l'histoire, par exemple, de la Pâque, sur les linteaux des portes à la sortie d'Égypte. Alors on se servait, c'était vraiment ce rameau de ce végétal qu'on se servait, et on trempait ça dans le sang, et c'était une forme d'expiation. C'était très figuratif, naturellement, aujourd'hui ça n'existe plus, mais toujours est-il que les choses étaient dites. Alors l'hysope, qui est l'image du sacrifice par le sang, et la neige immaculée, comme la neige immaculée. Lui, il aspirait à la pureté, être blanchi en quelque sorte. Alors après les larmes du regret sincère, ce que nous avons lu, c'est la joie qui rend la vie, et nous allons le découvrir à travers la suite. C'est l'assurance d'être pardonné. Le verset 10, et c'est comme s'il reprenait un nouveau souffle, David. Il était courbé jusqu'à maintenant. Il était écrasé par le poids de sa faute, et d'un seul coup il se relève, et il dit, annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Annonce-moi, dis-moi, Seigneur, parle-moi. Maintenant, survient un irrépressible, on peut s'exprimer de cette manière, besoin de sainteté. Après avoir trempé dans la souillure, après s'être vautré dans la boue, on peut dire les choses ainsi avec David, tout à coup, il a un désir d'être propre. Il a un désir d'être saint. Il a un désir de purification intense. Et il le dit, mais annonce-moi. Et d'être lavé de toutes ses tâches. Et il ajoute ceci, mais crée en moi un cœur pur. Ouais. Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. Et ça, nous pouvons toujours essayer de le faire par nous-mêmes, on n'y arrivera jamais. Les religions ont toutes sortes de pseudo-réponses à la question, à travers les abnégations, les sacrifices, la flagellation, enfin, mais dans toutes les religions, c'est ça. On dit, mais si vous expiez votre faute, alors à ce moment-là, peut-être vous trouverez tout à nouveau la faveur de Dieu. Et ça, c'est faux. C'est complètement faux, parce que tout l'Ancien Testament, préfigurant le Nouveau, annonce, eh bien, que celui qui fait l'expiation parfaite et totale de nos fautes, quelles qu'elles soient, celles de David et les autres, eh bien, c'est simplement Jésus qui est mort à la croix du calvaire. Tout simplement. Ça, c'est l'essence même du message de l'Évangile. Alors il dira, mais crée en moi, parce que moi, je ne peux pas y arriver, Seigneur. J'ai essayé de me réformer, j'ai essayé de me laver, j'ai essayé de me blanchir, mais ça ne sert à rien. Alors, on aime bien cette parole, crée en moi un cœur pur et un esprit bien sauvé, bien disposé. Le cœur, c'est le siège du sentiment. L'esprit, c'est ce qui me met en relation avec Dieu, avec ce que je connais de lui, et avec cette puissance. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Alors Seigneur, je m'attends à toi. Le mal commis, nous dit la Bible, nous sépare toujours de Dieu et nous prive de sa présence, de cette paix, de cette quiétude que nous avions, que nous avons maintenant et que David avait perdu. Il était plus bien. Il était plus bien dans ses chaussures. Il était plus bien dans son cœur. Il était plus bien dans sa vie. Ouais, il était malheureux. Alors il pouvait peut-être garder une mine fraîche devant ses sujets, devant ses soldats, dans son palais, mais c'était un sourire qui était forcé, c'était un sourire amer, un sourire qui était jaune-vert, comme vous voulez, mais il n'était pas bien. Vous savez, quelquefois on peut jouer la comédie comme ça longtemps et puis on n'est pas heureux. Surtout quand on a connu les deux états, quand on a été heureux, et qu'on devient malheureux par notre faute, et que là nous aspirons à devenir tout à nouveau heureux. Hein? Alors crée en moi, mets en moi cet esprit. Et nous voyons que tout cela nous plonge dans la détresse. Et plonger David dans la détresse morale, et peut-être même une détresse physique. C'est ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Vous savez, il y a des gens qui sont détraqués à l'intérieur, qui se sont cassés ou qui ont été cassés à l'intérieur d'eux-mêmes, où ça fonctionne, de temps à autre, ça fonctionne par intermittence, mais ça ne fonctionne pas en réalité. Et ça ressort quelquefois avec des douleurs extérieures, avec des souffrances, avec toutes sortes de choses. Eh oui, et je ne sais pas s'il en était là, mais quelquefois, dans la Bible, il nous est parlé que David est tombé malade aussi. Hein. Je ne sais pas si c'est à rapprocher. Alors il faut revenir, il faut retourner de toute façon, de toute manière. Eh bien là, il faut retrouver un souvenir et des pensées purifiées. C'est la question, tout cela. Comment peut-on revenir pour retrouver tout cela? Un cœur nouveau et un esprit ferme pour refaire le bien, pour refaire tout à nouveau du bien. Parce que c'était un homme de bien, mais qui avait perdu. Finalement, il vient de savoir comment faire. La nuit de la culpabilité s'estompe. Le sentiment de disgrâce, et ce sentiment de disgrâce, je crois qu'il l'a connu, David, c'est de plus se sentir aimé. Vous savez, quand on est en faute, on se dit, on ne m'aime plus. Dieu ne m'aime plus. Oh, ça arrive souvent. Hein. Quelquefois, on l'a entendu dans des partages que nous avons avec les uns et les autres en disant, mais je crois que Dieu ne m'aime plus. Eh oui. C'est de la disgrâce. Hein. Alors quelquefois, c'est faux. Et très souvent, quand on va dans les conversations avec des chrétiens, on s'aperçoit que c'est faux. Ils se laissent culpabiliser à tort par l'adversaire. Mais quelquefois, ça peut être vrai. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand c'est vrai, ils ne se remettent pas en cause, ces gens-là. Ça, c'est triste. On dit, mais Seigneur, est-ce que tu pourrais leur ouvrir les yeux et de voir un petit peu où ils ont marché, dans quoi ils sont allés, dans quoi ils sont tombés, et souvent ils ne sont pas. Comme si rien n'était, vous comprenez. Ils sont dans l'état de David pendant qu'ils se faisaient des illusions, parce qu'ils étaient tombés dans la folie, tout simplement. Alors, cette disgrâce, ce sentiment, eh bien à un moment donné, lorsque nous sommes vrais et sincères, il va disparaître. Tout à nouveau, on va sentir les choses. On va voir que finalement, il y a quelque chose qui passe sur notre vie. Dieu est en train de nous laver. Il est en train d'enlever les taches les unes après les autres. C'est ainsi que David dira ceci dans ce sentiment. Il dira, mais ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que vous savez ce qui nous fait vivre. C'est l'Esprit de Dieu. C'est la vie de Dieu en nous. C'est son Saint-Esprit. Alors quand on l'a perdu, on sait qu'on l'a perdu. Enfin, quand on est sincère. Ouais, on sait que c'est plus la même chose. Parce que vous savez, l'Esprit de Dieu est venu le jour où on s'est converti et le jour où on est né de nouveau. Hein. On a vu la différence. Quel bonheur de vivre avec Jésus. Quel bonheur. Et quand on chute, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On a perdu notre joie, on a perdu notre paix, on a perdu notre allant, on a perdu quelque chose. Mais on le sait tous, ça, hein, d'une manière ou d'une autre. On n'est pas à l'aise. On n'est pas bien. Rends-moi la joie de ton salut, dira-t-il. Maintenant, Nous allons voir brièvement, avant de terminer, le côté positif de la délivrance, versets 14 et 16. Il est dit ceci. « Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. » Rends-moi la joie de ton salut, nous l'avons dit déjà. Un esprit bien disposé, une bonne volonté. C'est ça ce que je veux. Comme un cri, comme un soupir, comme un cri qui espère le retour à la raison après la folie. Parce que nous avons pris conscience. Ce que ça pouvait être la folie, mise en parallèle avec la sagesse. C'est tout simplement le contraire. Afin que si cela lui est accordé, puisqu'il demande un esprit bien disposé, il demande un cœur pur, il demande un esprit de bonne volonté, il demande la joie qu'il a perdue, alors si sa prière est entendue de Dieu, si cela lui est accordé, eh bien à son tour, David dit qu'il va aider ceux qui s'égarent par la même expérience, par une expérience semblable à la sienne, parce qu'il sait ce qu'il en est, ou peut-être d'autres choses, et de leur dire tout simplement, parce que c'est important, hein, écoutez bien, que tout espoir n'est jamais perdu auprès de Dieu, auprès de ce Dieu de miséricorde, si nous nous repentons, si nous confessons nos péchés, et si nous lui demandons tout ce que David demandait, alors à ce moment-là, nous obtiendrons tout simplement sa miséricorde. Le verset 15 le souligne d'une manière, je le relis, « Alors à ce moment-là, j'enseignerai les voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Parce que moi, si je suis revenu de mon état de folie et de misère et de peine et de souffrance, ben alors moi je dirai aux autres, hein, surtout qu'ils n'y aillent pas, surtout qu'ils reviennent s'ils y ont été, et que Dieu est bien toujours prêt à les accueillir, tout simplement. » Et je finis. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Délivre-moi du sang versé. Chez David, il va subsister une question. Il va subsister un cruel chagrin qu'il ne pourra jamais oublier. Vous avez compris? Qui n'aura pas de réparation. Vous savez pourquoi? C'est celui d'avoir été complice, d'avoir tué un homme. Parce que là, Uriel est mort, et il est bien mort. Là, il a dépassé les mesures. Hein. Il a tué un homme. Un homme qui était innocent. Un homme qui était juste. Un homme qui était meilleur que David dans cette situation. Et il l'a fait assassiner. Il avait donné l'ordre, finalement, de le mettre à mort. En l'envoyant au combat. Par main interposée, par ordre interposé. Et ça, David s'en souviendra toujours. Un homme qui l'a fait tuer parce qu'il avait pris sa femme. Pour en faire, finalement, eh bien... pour faire adultère avec elle. C'est pour ça qu'il dit, « Mais Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, délivre-moi du sang versé. » Il y a des fautes dans la vie que Dieu va nous pardonner. Donc nous sommes absous. Pas de problème. Mais il y a des fautes qui peuvent être réparées, qui peuvent être compensées, qui peuvent être remboursées, nous pourrions dire, dans, si c'est une question hein, d'espèce sonnante et trébuchante. Ça c'est vrai, on peut toujours réparer à un moment ou à un autre. Qui est une preuve, finalement, eh bien, que nous nous sommes repentis et que nous avons fait véritablement ce qu'il fallait. Mais il y a des choses que nous ne pouvons rien faire. Et toute sa vie, David va garder le souvenir qu'il a fait tuer un homme innocent pour son propre plaisir et pour son égoïsme. Terrible, hein ? Mais c'est comme ça. La conclusion, eh bien, nous l'avons au verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit, nous dit le texte. La véritable repentance est exprimée dans sa plus belle expression à travers ce verset que nous avons lu. Ce qui t'est agréable, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Ça, c'est la véritable repentance. Le seul et juste sacrifice, parce que vous savez que dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient des sacrifices d'animaux. C'est-à-dire on faisait mourir des animaux à la place pour le péché des hommes. C'était des victimes, dirons-nous, expiatoires. Alors, les Juifs avaient toujours cette, naturellement, hein, c'était dans leur loi religieuse. Alors, à chaque fois qu'il y avait péché, il fallait qu'il aille finalement auprès du sacrificateur. Sacrificateur, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'était lui qui mettait à mort l'animal à la place de l'homme. Et le sang était une forme d'expiation. C'est quelque chose d'assez compliqué, tout ça. Mais le seul et juste sacrifice que Dieu agrée s'inspire tout simplement d'une repentance qui humilie l'orgueil de l'homme. On ne peut pas dire autrement. Qui courbe l'homme coupable, lequel peut alors croire à un accueil toujours favorable et à une restauration possible. Et cette restauration, ce pardon, et cette restauration, c'est une œuvre miraculeuse de Dieu. Ce n'est pas nous. Et cette œuvre miraculeuse de Dieu se déclenche lorsque nous croyons que c'est possible que nous soyons pardonnés, que nous nous repentons, que nous confessons nos péchés, et à ce moment-là, eh bien, c'est Dieu qui va nous transformer, c'est tout. L'histoire du fils prodigue, c'est exactement la même chose, sous une autre présentation, mais c'est la même chose. Et ça, c'est la force du pardon du Père pour tous les fils prodigues d'hier, d'aujourd'hui et de demain. La force du pardon. Combien il y a d'hommes, de femmes qui ont besoin de venir à la lecture de ce texte du psaume 51. J'y ajouterai le psaume 32, si vous voulez, parce que c'est à peu près la même chose. Ça, c'est quelque chose de fondamental et d'essentiel. Confesser nos péchés, nous repentir, qui est le sens d'un véritable regret profond d'avoir offensé Dieu, d'avoir fait ce qui n'était pas à faire. Et quand c'est le Père qui nous pardonne, qui pardonne à tous les fils prodigues, eux-mêmes reviennent en pleurant, mais ils reviennent en pleurant de joie. C'est ça la différence. Ils reviennent en pleurant de joie d'avoir été pardonnés. Et c'est ce qui fera dire à Jésus dans sa parabole en conclusion du fils prodigue, « Voici mon fils qui était mort et revenu à la vie, qui était perdu, il est revenu à la vie et il était retrouvé. » C'est exactement ce que David en a fait l'expérience. C'est la leçon qu'il nous donne encore ce soir. Alors, mon Dieu, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. C'est toi qui crées en moi, c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. La repentance n'a rien à voir avec la pénitence, qui est une démarche religieuse, mais qui ne va pas plus loin que les mots. Or, la repentance, c'est quelque chose qui est créé dans notre cœur par Dieu, avec cette pression, peut-être, cette pression de souffrance et de peine, mais qui nous amène peut-être à pleurer dans un premier temps devant Dieu, mais qui nous amène après à pleurer de joie de savoir que nous sommes pardonnés, que nous sommes sauvés, et que Dieu a oublié nos péchés, et que maintenant nous pouvons être réhabilités et repartir pour une vie nouvelle. Donc, on s'aperçoit que nous ne sommes pas au-dessus des anges. Nous ne sommes pas au-dessus de quiconque, c'est que nous restons encore dans une grande fragilité. Et s'il nous arrive de pécher, eh bien il nous est dit que nous avons là auprès de Dieu un avocat, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a véritablement accompli pour nous ce que nous ne pouvons pas faire. Alors, eh bien, crée en moi un esprit pur et un esprit, un cœur pur et un esprit de bonne volonté. Nous allons prier quelques instants, si vous voulez. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que ta parole n'est pas une parole de condamnation. Elle n'est pas même une parole de jugement. Elle est tout simplement, Seigneur, un diagnostic. Nous n'oserions pas dire qu'il est médical, mais il est moral et il est spirituel. Pour nous montrer, Seigneur, que ton grand désir, c'est de ne pas voir les hommes mourir, mais c'est de les voir sauvés. Mais nous savons, Seigneur, qu'il y a tout un cheminement pour être sauvé, c'est de venir à toi, c'est de te prier, c'est de véritablement nous mettre à la lumière et non pas nous cacher dans les ténèbres, nous donner des excuses et des prétextes, mais de pouvoir te dire, eh bien Seigneur, c'est vrai, j'ai péché contre le ciel et contre toi, pardonne-moi Seigneur. Et quand il y a de la sincérité, quand il y a de l'honnêteté, alors à ce moment-là tu es capable de faire ce qu'aucun homme, aucune religion, aucune pratique d'une manière ou d'une autre ne pourrait accomplir. C'est le miracle de Dieu. Alors, merci Seigneur. Accorde-nous ta grâce et bénis ta parole. Bénis-nous à travers ta parole et bénis, Seigneur, aussi cette lecture de la Bible. ce commentaire, Seigneur, qui peut aller à travers toute la terre, et qu'ainsi, partout il y a des hommes chargés, qu'ils puissent véritablement vivre, c'est vrai, Seigneur, eh bien, des pleurs de repentance, qui ne sont plus des pleurs de souffrance, mais des pleurs de bonheur et de joie, parce que Christ, en effet, pardonne et oublie nos fautes. Merci, Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.